le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. 25 civils tués ce matin à Alep. Les raids aériens menés par le régime sont intenses et continuent. Handicap International alerte ce samedi sur les ravages des mines à sous-munitions et des armes explosives. Manifestation en cours à Paris. Nous entendrons Maëlle Pelletier, l'une des coordinatrices de l'association en Syrie. Au Gabon, l'opposant Jean Ping n'a toujours pas réagi à la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté sa requête après l'élection présidentielle controversée du mois d'août. Ali Bongo est confirmé. Nous irons sur place avec Karine Franck. À Lyon, Emmanuel Macron va conclure cet après-midi le rendez-vous des progressistes européens. Un pas supplémentaire vers 2017, mais un pas un peu plus seul. En coulisses, le Parti Socialiste a lancé les manœuvres pour l'isoler. Précision à suivre de Ludovic Piétenu. Enfin, reportage en fin de journal au nouveau musée de l'histoire afro-américaine des États-Unis. Barack Obama attendu pour l'inauguration à Washington, alors que la question raciale dans le pays est ravivée ces derniers jours. En Syrie, de nouvelles frappes aériennes sont en cours sur l'est d'Alep, contrôlée par les insurgés. Des raids intenses et continues, selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'OSDH évoque 25 morts parmi les civils et des dizaines de blessés. Alors que les derniers efforts diplomatiques ont échoué, l'armée syrienne serait en train de préparer une offensive terrestre à Alep, qui constitue la priorité absolue du régime de Damas. C'est dans ce contexte qu'Handicap International organise ce samedi ses pyramides de chaussures. Elles vont s'élever un peu partout en France pour sensibiliser le public aux ravages provoqués par les mines à sous-munitions. En Syrie, si la guerre s'arrêtait demain, il faudrait 30 années pour déminer, explique Maëlle Pelletier, la coordinatrice de l'ONG en Syrie, se trouve actuellement dans la manifestation parisienne.
Nous menons des actions de kinésithérapie auprès des personnes blessées pour prévenir dans la mesure du possible les handicaps permanents qui résulteraient de l'usage d'armes explosives auprès des populations civiles. Également des activités d'appareillage, qu'on fournit des prothèses, des aides à la mobilité. Et également nous menons des activités de sensibilisation auprès des populations civiles, en particulier des enfants, vis-à-vis des restes explosifs de guerre. On sait par expérience que les enfants sont particulièrement curieux, mobiles. En Syrie, ils ont tendance à aller jouer dans les gravats, des maisons qui ont été détruites aussi parce que les infrastructures scolaires et autres ne sont plus existantes. Donc c'est vrai que les enfants sont particulièrement à risque de ces accidents. Quand la ville de Kobané a été de nouveau accessible aux civils après le conflit qui a duré à peu près 6 mois, on a très vite su et on a très vite constaté qu'il y avait un nombre très important d'accidents liés aux restes explosifs de guerre, aux engins explosifs improvisés qui ont touché énormément de civils et leur retour. Et donc Handicap International est intervenu auprès de ces populations pour faire de la sensibilisation et les informer des risques qu'ils encouraient à rentrer dans des zones qui sont fortement contaminées. Selon les informations que nous avons pu collecter sur le terrain, nous estimons qu'il faudra au moins 30 ans pour décontaminer la Syrie et en premier lieu pour rendre accessibles et sûres les infrastructures civiles telles que les écoles, les hôpitaux, les routes principales, garantir l'accès de l'aide humanitaire d'une façon qui ne mettrait pas en danger la vie des gens et la vie des opérateurs. Intervenir en Syrie où les activités militaires sont quotidiennes, ça nécessite en effet des mesures de sécurité dans nos opérations qui sont en général prises au jour le jour. Depuis le début de l'intervention en Syrie et dans les pays limitrophes, on estime que 750 000 personnes ont bénéficié de l'action d'Handicap International. Mais je pense qu'il faudra à minima 30 ans pour espérer un retour à la normale une fois que le conflit aura cessé.
Des propos recueillis par Claire Le Nestour à Paris. La pyramide de chaussures d'Handicap International est en train de se monter. Place de la République, initiative qui dure jusqu'à 20h ce soir. Par ailleurs, à Lyon, l'ONG propose au public un dispositif de réalité virtuelle qui immerge les visiteurs dans une ville syrienne. En Irak, 12 personnes ont été tuées et 23 blessées lors de 2 attaques commises dans la ville de Tikrit, au nord de Bagdad, ville reprise l'année dernière aux djihadistes du groupe État islamique. Des hommes armés ont d'abord tiré sur des personnes à un checkpoint dans la partie ouest de la ville, puis un kamikaze a fait exploser son véhicule dans le nord de l'agglomération. La capitale du Gabon, Libreville, quadrillée par la police ce midi. Les autorités craignent des débordements après la validation la nuit dernière du scrutin présidentiel controversé du mois d'août. La Cour constitutionnelle a rejeté l'essentiel du recours de l'opposant Jean Ping et a confirmé la réélection d'Ali Bongo. Dans une déclaration télévisée, ce dernier a appelé tous les responsables politiques, y compris les candidats malheureux à l'élection présidentielle, au dialogue politique. Pour l'instant, Jean Ping n'a pas réagi, Karine Franck.
Impossible, bien entendu, de savoir ce qui peut se passer dans les heures qui viennent. La répression lors des émeutes du 31 août a été dure. Un millier de personnes ont été arrêtées, même si la plupart ont été relâchées depuis. L'attaque du QG de Jinping a aussi affecté les militants. Beaucoup ont peur pour leur sécurité. Reste que de nombreux jeunes se disent déterminés. La victoire de Jinping pour eux ne fait aucun doute. Alors dans ces conditions, on ne sait pas quel sentiment va l'emporter, celui de la prudence ou celui de la révolte. Trois questions importantes se posent selon un observateur de la vie politique gabonaise. Y aura-t-il des violences? S'il y a des violences, quel sera le degré de ces violences? Quel sera enfin le degré de la répression?
Les précisions de Karine Franck de RFI pour France Culture. Au Vatican, le pape François reçoit ce midi près d'une soixantaine de familles victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice. Elles sont accompagnées de soutien de toute confession, dont l'évêque de Nice, André Marceau. Le pape avait déjà reçu le président Hollande à la mi-août pour réaffirmer son soutien et son affection à la France, touchée par une série d'attentats depuis 2015. L'Italie, qui il y a un mois tout juste faisait face à un tremblement de terre qui dévastait le centre du pays, il y a eu près de 300 morts. Les autorités cherchent encore aujourd'hui des hébergements en dur pour tous les rescapés et promettent de reconstruire à l'identique les zones touchées. Mathilde Imberti, vous vous êtes rendue à Amatrice, la commune la plus durement touchée par ce séisme.
Des panneaux tout neufs ont été plantés à l'entrée de la commune. On y lit « Amatrice, l'un des plus beaux villages d'Italie », comme pour donner du courage à tous ceux qui depuis un mois vivent dans un paysage de ruines. 3000 personnes dorment encore sous tente ou dans des caravanes, comme Federica et ses deux enfants.
Les secours nous ont prêté cette caravane, il n'y a pas de toilette, on doit sortir sous la pluie. Il fait froid, il faut allumer le petit radiateur, mais il est impossible à régler. On n'atteint jamais la bonne température. Bref, ça ne va pas pouvoir durer.
Federica souhaiterait rester au plus près de sa maison, dont les pompiers lui interdisent l'accès, car dit-elle, les chacals rôdent. C'est le nom que l'on donne aux voleurs qui viennent se servir dans les décombres. Mais tous les rescapés devront se résoudre à descendre dans la vallée, soit dans des hôtels, soit chez des proches, car les structures d'urgence seront démontées dans le courant de la semaine prochaine. C'est la condition pour commencer à reconstruire Amatrice, explique le maire Sergio Perotti.
Il faut choisir rapidement. L'objectif est de débarrasser les terrains pour y installer des maisons provisoires, des sortes de grands bungalows. Mon rêve est qu'à Pâques, le jour de la résurrection, tout le monde ait un toit.
Ces maisons provisoires devraient arriver pour le printemps, selon le plan du gouvernement italien, qui promet pour la suite de reconstruire à l'identique les territoires touchés par le séisme.
Un reportage de Mathilde Imberti, notre correspondante à Rome. Au Royaume-Uni, on attend dans les prochaines minutes le résultat de l'élection du numéro 1 du Parti travailliste. Le militant anti-austérité, Jeremy Corbyn, devrait être réélu grâce à l'appui des militants et en dépit de la défiance qu'il suscite en interne. Le congrès du plus grand parti d'Europe se tient en ce moment même à Liverpool. La plupart des cadres et députés estiment que le profil de Jeremy Corbyn, très à gauche, renferme la promesse d'un désastre électoral pour les législatives de 2020. En France, la journée est aussi marquée par une mobilisation en soutien aux salariés d'Alstom à Belfort. À 14h, une manifestation réunira élus, syndicats et habitants afin de faire pression sur la direction et le gouvernement pour demander le maintien du site industriel et de ses 480 salariés après 2018 dans la ville. En parallèle, la commune a demandé aux commerçants de participer à une opération ville morte. Ils baisseront symboliquement leurs rideaux entre 14 et 15 heures. Hugo Flotatalon.
Dans les rues Belfortaines, il y a d'abord les commerçants indépendants. À l'image du patron du magasin Pause Musicale dans le faubourg de Montbéliard, Bernard Jacouteau, ils baisseront quasiment tous leurs rideaux cet après-midi.
À force d'avoir des suppressions d'emplois, automatiquement les gens ont moins de revenus et moi les commerces commencent à ne plus supporter ça. Donc c'est vrai que le soutien à des entreprises comme ça, c'est nécessaire. On ne peut pas faire autrement.
Mais les bars et restaurants avouent qu'ils auront peut-être du mal à vider leurs terrasses entre 14 et 15 heures. Difficile aussi pour la coiffeuse Victoria Sebo de fermer boutique.
Nos rendez-vous sont demi-heure par demi-heure, surtout le samedi. Une fois qu'on a prévu du temps, il y a les couleurs. Et qu'on ne peut pas laisser nos clientes sur le devant de la porte ou alors les jeter avec la couleur sur le trottoir.
Elle baissera tout de même son rideau pour l'image. Restent les grandes chaînes de magasins. Elles ont empêché la fermeture de la galerie du Faubourg et de plusieurs boutiques rue piétonne contre l'avis même des salariés.
Toutes les décisions appartiennent aux grandes enseignes et puis nous on subit quoi. On obéit à un siège et on les soutient malgré tout avec nos petits coups de pouce à nous. Justement là on pousse les portes, on éteint la musique pour dire qu'on participe mais sinon sans plus quoi.
Certaines enseignes fermeront tout de même complètement sans même avoir demandé l'aval de leur direction. Les salariés les plus engagés décollent et recollent même les affiches appelant à manifester sur leurs portes au gré des passages des patrons.
Les précisions d'Hugo Flotta-Talon de France Bleu Belfort. À quelques semaines de sa sortie du gouvernement, Emmanuel Macron poursuit son chemin vers une candidature à la présidentielle et cela en dépit des tirs de barrage de la majorité. Il conclura cet après-midi le sommet des réformistes européens organisé à Lyon par son plus fidèle soutien, le sénateur maire socialiste Gérard Collomb. Beaucoup d'invitations avaient été lancées et il y a eu de nombreuses annulations, Ludovic Piétenu.
Quand les bristoles sont partis, quand les coups de fil ont été passés, Emmanuel Macron n'avait pas encore prononcé son discours à la mutualité le 12 juillet. Il était encore ministre de l'économie, il n'avait pas franchi le pas. Sa démission a tout changé, François Hollande et Manuel Valls le désignent désormais comme l'homme à abattre. Et tant pis si cela ne fait que, semble-t-il, le faire grimper dans les sondages d'opinion. Le Premier ministre cogne, celui qu'il qualifie d'homme sans code, au populisme light, lancé dans une stratégie d'empêchement du président sortant. Pour ce colloque que va clôturer Emmanuel Macron, les rares socialistes dans l'assistance, par exemple quelques parlementaires, sont ceux, une petite quarantaine et c'est déjà beaucoup, qui ont déjà tourné le dos à François Hollande. Car pour les autres, y aller est un risque. Tous ceux qui pratiqueraient la double appartenance PS et En Marche seront placés devant un choix, prévenait au début du mois par SMS Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, au cadre du parti. Y aller serait donc se rallier. Et cela vaut aussi pour un think tank comme Terra Nova. Indépendant mais proche du PS, il s'est retiré des co-organisateurs, laissant seuls les GRAC, think tank rocardien qui soutient Emmanuel Macron mais qui, ironie de l'histoire, apprécie aussi beaucoup Manuel Valls. Quant aux grands invités européens, Matteo Renzi ou Sigmar Gabriel, ils ont disparu du programme du colloque. Problème d'agenda, aussi dit-on parce qu'ils connaissent bien le locataire de l'Élysée.
Dans cet espace politique du centre, déjà occupé par Emmanuel Macron, voire Alain Juppé, François Bayrou se tient en embuscade. Il réunit ses troupes ce week-end à Guidel dans le Morbihan pour l'université de rentrée de son parti, le Modem. Soutien d'Alain Juppé à la primaire de la droite, François Bayrou pourrait néanmoins se présenter à la présidentielle si le maire de Bordeaux ne parvient pas à s'imposer. Après l'annonce du démantèlement de la jungle de Calais par Bernard Cazeneuve début septembre, François Hollande s'empare du sujet. Le chef de l'État est attendu lundi à Calais et ce matin il est à Tours où il a visité un centre régional d'accueil et d'orientation des migrants. Nous faisons en sorte d'accueillir dignement ceux qui demandent l'asile, a déclaré le chef de l'État. Enfin, aux États-Unis, c'est le jour J pour l'ouverture du musée de l'histoire afro-américaine à Washington. Barack Obama sera présent pour l'inauguration ce samedi. Une inauguration qui se déroule dans une période où la question raciale est particulièrement aiguë. Des centaines de manifestants se sont encore rassemblés la nuit dernière à Charlotte pour dénoncer une nouvelle bavure policière à l'encontre de la communauté noire. Frédéric Carbone, vous avez visité le nouveau musée en avant-première pour France Culture.
Avec ce musée, le peuple noir américain trouve enfin une place centrale dans l'histoire du pays. Il a fallu un siècle de lutte politique et une décennie de construction, mais aujourd'hui se félicite John Franklin, un des conservateurs. Le bâtiment de 6 étages existe, et pas n'importe où, sur le Mall, au cœur de Washington.
C'est un endroit sacré pour les États-Unis. C'est à côté de la Maison Blanche, c'est devant le gouvernement américain. C'est un endroit civique où les gens s'expriment.
Être un lieu de débat sur une question toujours aussi sensible, c'est d'ailleurs un des objectifs de ce musée. Et des vidéos de noirs tués par la police côtoient les photos de l'investiture de Barack Obama. Mais l'essentiel, bien sûr, c'est l'histoire, l'esclavage, la ségrégation, la lutte pour les droits civiques. Et la visite ressemble à un voyage dont Maria Donna Owens ne sort pas indemne.
C'est un sentiment indescriptible. C'est un mélange de tristesse, de joie, une forme de triomphe aussi. Nous sommes des survivants et nous sommes là.
C'est ma maison, conclut cette femme, qui, comme des dizaines de milliers de personnes, a donné de l'argent pour que ce musée existe. Une maison remplie d'objets, de souvenirs et de photos. Ce sont des moments d'intimité de familles anonymes, mais également des héros de la cause des Noirs américains. Nous sommes là, par exemple, dans la salle consacrée à Harriet Tubman, figure de la lutte contre l'esclavage. Il y a un châle donné par la reine d'Angleterre et des carnets de musique. C'est par le quotidien, explique Marie Elliott, que tout visiteur peut s'identifier.
Tout le monde peut se sentir concerné. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Harriet Tubman si vous saviez que d'autres ne se sont pas libérés comme vous? Auriez-vous pris le risque de retourner là-bas, de libérer des centaines de personnes? Auriez-vous risqué votre peau? C'est une vie, c'est la vie. C'est une personne, c'est une vie honorable.
Ce lieu pourrait effectivement s'appeler aussi le musée des vies honorables, des vies en tout cas bafouées, niées, oubliées, et qui désormais accède à la reconnaissance de la nation.
Un reportage de Frédéric Carbone. La météo, l'été joue les prolongations ce samedi. Du soleil partout en France avec de la chaleur cet après-midi. Il fera 22 à Strasbourg, 24 à Lille, Paris et Marseille, 25 à Ajaccio, 28 à Perpignan et 29 à Bordeaux.